Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels ont été les changements anatomiques qui ont permis à l'homme de chasser de jour et aux heures chaudes? Dans les comportements de prédation, quel est le rôle de la course d'endurance, s'interroge le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin. Quelles ont été les adaptations biologiques aux changements d'environnement? Parmi les hominines connus à la fin du Pliocène et au début du Pléistocène, quels sont ceux qui se sont engagés dans la consommation de viande et de produits animaux? Quel tournant marque l'apparition d'Homo erectus il y a 2 millions d'années environ? Jean-Jacques Hublin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité titulaire de la chaire internationale de paléo-anthropologie au Collège de France, nous entraîne dans une grande exploration de la prédation chez les hominines dans sa nouvelle série intitulée « L'homme prédateur ». Dans les cours précédents, nous avons vu que l'Afrique avait connu une crise climatique entre 3 et 2,6 millions d'années, crise ayant accru l'aridité et réduit les surfaces arborées. Deux lignées nouvelles qui s'enracinent au sein des Australopithèques et qui correspondent à deux réponses adaptatives différentes à ces changements environnementaux sont apparues, le genre Paranthropus et le genre Homo. La série de cette année nous introduit dans une approche interdisciplinaire mêlant études comportementales, anatomie, analyse des fossiles, analyse biochimique aux dernières découvertes, mais aussi au débat autour de ces découvertes qui animent la communauté internationale des chercheurs. Ainsi, aujourd'hui est posée la question de conserver ou pas au sein du genre Homo, Homo habilis qui précède Homo erectus. Dans le récent et passionnant ouvrage collectif intitulé « Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances », Jean-Jacques Hublin explique, et je le cite, « Homo habilis représente probablement une branche éteinte d'un buisson d'espèces encore mal documentées. C'est certainement aussi le cas de l'espèce Homo rudolfensis, qui au sein du genre Homo a développé des traits faciaux et dentaires qui rappellent ceux de Paranthropes. Parmi ces formes contemporaines, toutes confrontées à de profonds changements environnementaux, on assiste donc à des phénomènes d'évolution parallèles. Quant à l'espèce Homo erectus, qui représente très vraisemblablement notre ancêtre direct, sa première occurrence remonte à 1,87 million d'années et elle est des plus modestes. Le paléanthropologue note encore que les informations les plus complètes sur les premiers Homo erectus viennent de deux régions, la Géorgie et les rives du lac Turkana au Kenya. L'expansion hors d'Afrique d'Homo erectus suit donc de très peu sa première occurrence en Afrique et elle s'est opérée uniquement dans des régions au climat clément. Enfin, Jean-Jacques Hublin souligne que l'espèce Homo erectus connaît une longévité exceptionnelle puisqu'elle est connue en Extrême-Orient jusque vers 400 000-300 000 ans. Elle correspond aussi à la première expansion à une échelle transcontinentale d'une espèce humaine unique qui remplace totalement ou peu s'en faut toutes les autres formes d'hominines. Ce développement remarquable résulte du succès d'un nouveau modèle adaptatif qui permet en particulier aux hommes de se libérer des milieux arborés et au-delà des savanes africaines, de s'adapter à des environnements très variés. Alors quelles sont les capacités extraordinaires de l'homme pour la chasse par la course d'endurance et l'épuisement de sa proie? Et nous gagnons le Collège de France le 13 novembre 2018 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui, l'adaptation biologique à la prédation.
Après avoir étudié le comportement des primates non humains, surtout des chimpanzés communs et des bonobos, après avoir exploré les premières traces de comportement prédateur chez l'homme, je voudrais aujourd'hui vous entretenir des adaptations qui sont liées à ces changements de comportement chez les hominines. Parmi les sites archéologiques et paléontologiques que nous avons vus la dernière fois, il y avait ce site de Kanjera South. Et vous vous souvenez que je vous ai dit que c'était, dans le fond, le premier site où on trouvait en abondance des restes d'ongulés qui avaient été modifiés par l'homme par la présence de traces de découpe faites avec des outils de pierre taillée et aussi par l'écrasement des diaphyses des olons pour en extraire la moelle avec aussi des transports, alors transports avec des modalités différentes suivant la taille des ongulés concernés. Et donc ce site est vraiment intéressant parce que il marque vraiment une coupure, je ne crois pas trop aux coupures dans l'évolution humaine, mais en tout cas un tournant, un virage. À partir de ce moment-là, on va trouver des sites qui sont très très riches. On va trouver des accumulations d'ossements brisés et des accumulations d'objets de pierre taillée. Alors que dans les périodes précédentes, c'est une rareté. Et donc, ce qu'on pense, ça a été un peu la conclusion de notre rencontre la dernière fois, c'est que, dans le fond, il y a eu une consommation de viande qui était occasionnelle, peut-être un petit peu similaire à celle qu'on observe chez les grands singes, et puis, à un moment donné, vraiment un comportement de prédation et de charognage qui était beaucoup plus systématique. Et je vous ai montré un autre site qui date pratiquement de la même époque et toujours dans la même région d'Afrique de l'Est, où là, on a l'exploitation, non pas de bovidés, mais d'animaux aquatiques de toutes sortes, surtout des poissons-chats, mais aussi des tortues, des petits crocodiles, qui étaient prélevés par les hommes à la fin de la saison sèche. À un moment donné, où les mares dans lesquelles vivent ces animaux se transforment en mares de boue, et où il est assez facile d'aller attraper ces poissons-chats ou ces autres animaux. Et on va en reparler un petit peu plus tard, mais un des caractères particuliers de ces assemblages, qui sont donc prélevés de façon saisonnière, c'est que cette fin de la saison sèche, quand ces mares se retrécissent de plus en plus, c'est un moment où les ongulés auxquels les hommes commencent à s'intéresser vraiment de près sont pas au meilleur de leur forme, ils ont moins de graisse. Et au contraire, justement, tous ces animaux aquatiques, eux, sont beaucoup plus gras et donc susceptibles de produire des lipides qui sont intéressants pour les hommes. Vous allez voir que cette histoire de consommation des lipides, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Donc la question qui se pose, dans le fond, c'est parmi les hominines que l'on connaît à la fin du Pliocène et au début du Pléistocène, quels sont ceux qui sont engagés dans cette voie de la prédation, de la consommation de viande et de produits animaux d'une façon générale? Et évidemment, la difficulté, c'est que on a très rarement l'association de restes humains, d'outillages et de restes de faune. Et même quand cela arrive, souvenez-vous du gisement d'Olduvai, on peut se rendre compte parfois que celui qu'on a cru être l'auteur de l'outillage, l'artisan de l'outillage, et celui qui a accumulé les restes de faune, il n'est là qu'un petit peu par hasard. Et donc, j'allais dire, par défaut, on a tendance à considérer que peut-être toutes ces espèces, plus ou moins, peut-être à des degrés divers, sont engagés dans ces comportements. Et encore une fois, je suis persuadé personnellement que les Australopithèques non seulement fabriquent des outils comme ceux qu'on a vus de l'Ouest Turkana, mais aussi consomment tous ces produits animaux. Mais quand même, si on retient cette date de 2 millions d'années comme la date à partir de laquelle on voit vraiment se développer ces comportements, eh bien, si on jette un coup d'œil à cet arbre, cet arbre, c'est pas vraiment un arbre, c'est plutôt une distribution chronologique de différentes espèces que je vous ai souvent montré, et qu'on zoome un petit peu sur cette période de 2 millions d'années, on voit quand même qu'il se passe quelque chose, et ce qui se passe à cette époque-là, eh bien, c'est l'apparition d'une nouvelle espèce qu'on va appeler Homo erectus. Alors, on a utilisé le terme d'Homo ergaster pour dénommer les formes les plus anciennes qui sont connues en Afrique, puisque l'espèce Homo erectus a d'abord été décrite en Asie. Vous savez, c'est le fameux pithécanthrope de Java qui a été à l'origine du terme erectus, donc le Pithecanthropus erectus, qui est devenu plus tard Homo erectus. Eh bien, les premières occurrences dans le registre fossile correspondent à cette date de 2 millions d'années, mais on a aussi d'autres formes que l'on attribue au genre Homo, des formes anciennes. Alors quand même, j'insiste sur un point que j'ai déjà soulevé plusieurs fois, c'est que ces dates à laquelle on voit démarrer toutes ces barres, c'est assez difficile de les considérer comme des dates d'apparition. En fait, ce sont des dates de première occurrence dans le registre fossile. Et cette première occurrence, souvent, c'est une première occurrence qui se manifeste par des restes extrêmement fragmentaires. Vous allez voir, je vais vous montrer dans un moment les plus anciens fossiles qu'on attribue à Homo erectus, c'est pas grand-chose. Hein. Et donc, c'est vraiment le hasard, souvent, qui fait qu'on les a découverts et qu'on a placé sur eux une date de début. Mais il est certain que ces groupes ont une existence qui remonte plus loin dans le temps, et dans le fond, il faudrait mettre des pointillés avant toutes ces barres. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour la disparition. Donc ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin un moment historique bien particulier. Alors, avant de discuter plus particulièrement des changements biologiques qui interviennent en même temps que ces changements de comportement, je vous fais quand même une petite révision de ces différentes espèces du genre Homo pour que vous ayez les choses bien au net dans votre tête. Donc, on a d'abord ce fameux Homo habilis. Alors, Homo habilis, dans cette parade qu'on voit souvent, où on voit se succéder différentes formes d'hominines qui évoluent, enfin, apparemment de façon linéaire, les unes derrière les autres, pour arriver jusqu'à l'homme actuel, c'est généralement ce qu'on présente comme l'hominine qui précède Homo erectus, et donc c'est le premier représentant du genre Homo. En tout cas, c'est souvent comme ça que la chose est présentée dans la littérature plus ou moins spécialisée. Cet Homo habilis, donc le premier exemplaire, il a été découvert en 1960 dans ce site d'Olduvai, en Tanzanie, dans un site qui s'appelle, parce qu'Olduvai, c'est un ensemble de sites, en fait, hein. Donc dans ces gorges d'Olduvai, il y a un site qui s'appelle FLK, qui se trouve dans un niveau bien particulier qui est le Bed 1. Et donc on a trouvé, enfin en tout cas la famille Lyquet en 1960 a trouvé pour la première fois des restes qui ont été attribués à cet Homo habilis. Et donc le type de cette espèce, c'est en particulier cette mandibule qu'on a appelée Olduvai Hominid 7, donc OH7. Et auquel on a associé des restes qui ont été trouvés dans les mêmes niveaux, non pas trop loin, en particulier des restes crâniens, deux os pariétaux, et puis aussi des os de la main, des os du pied un peu plus loin, je vous montrerai un exemplaire tout à l'heure. Et dans le fond, il faut bien se rendre compte que Louis Lyquet, hein, qui était derrière tous ces travaux avec son épouse Mary, était là en Afrique de l'Est depuis quand même pas mal d'années. Il est originaire du Kenya et il était déterminé à trouver le plus ancien représentant du genre Homo. Hein. Donc il avait déjà, si je peux dire, fait deux essais qui ont été un petit peu malencontreux, mais cette fois-ci, c'était la bonne. Et donc, pourquoi le genre Homo ? Bien parce que, d'abord, la denture de ce fossile est très différente de celle des Australopithèques. On a une réduction la denture jugale, des molaires, et un développement des incisives et des canines. Donc ça, ça indiquait un régime plus omnivore, plus carnivore que celui des australopithèques, et puis surtout une capacité crânienne estimée à l'époque qui était très supérieure. Je vous rappelle aussi qu'à l'époque où la publication dans Nature, donc en 1964, de ces fossiles est arrivée dans le monde des paléanthropologues, ça a été l'occasion d'empoignades extraordinaires qui ont duré assez longtemps et qui d'ailleurs durent encore, je vais vous en dire un mot. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le fond, certains ont pensé que pour faire rentrer dans le genre homo cet homo habilis, on avait été obligé dans le fond de modifier l'idée qu'on avait du genre homo, en particulier en ce qui concerne la capacité cérébrale. Alors, par la suite, on s'est rendu compte que c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas juste un homo habilis qui précédait un homo erectus, mais qu'on avait d'autres espèces possibles, et en tout cas, au moins deux qui précédaient cet homo erectus. Et cette espèce en particulier a été reconnue dans la région toujours de l'est du lac Rodolphe, au Kenya, et c'est surtout les travaux du projet de Cobifora, qui était mené toujours par la famille Liquet, mais cette fois-ci c'était le fils Liquet. Donc dans les années 70, on a commencé à trouver dans cette région-là des fossiles qui montraient qu'à côté de formes plutôt de petite taille qu'on continue à attribuer à Homo habilis, eh bien on avait quelque chose de différent, plus grand, avec une morphologie faciale surtout très différente, une denture aussi très différente, quelque chose qui l'a évoqué plus les paranthropes, et après bien des débats pour savoir si ces deux formes n'étaient pas les mâles et les femelles d'une même espèce. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une opinion qui est assez largement répandue, qu'il s'agit bien de deux espèces, donc Homo rudolfensis et Homo habilis. Et il y a eu d'autres découvertes depuis qui ont confirmé qu'on avait affaire vraiment à deux morphologies très différentes. Et puis, je reviens à mon Homo ergaster erectus. On a eu la chance, dans les années 80, de trouver, alors cette fois-ci à l'ouest du lac Turkana, un squelette presque complet. Vous voyez qu'il lui manque les pieds, il lui manque un bras, mais enfin, il en reste beaucoup quand même. Hein. Et donc, ce squelette qu'on a attribué à un adolescent, alors on sait maintenant qu'il était en termes d'âge calendaire assez jeune, hein, puisque les caractères des microstructures dentaires lui donnent un âge autour de 8 ans. Hein. Mais enfin, il est assez grand déjà. Donc cette découverte, si je peux dire, a été une des nombreuses découvertes d'Homo erectus est-africain. Mais enfin, elle a été très très marquante parce qu'elle a donné lieu à une monographie, une description très détaillée. Et dans le fond, à l'époque de la découverte de cet Homo erectus, et surtout à la suite de cette publication de Walker et Leakey, c'est fait jour l'idée qu'on avait là une espèce de point de discontinuité, hein, avec des vrais hommes, si je peux dire, qui étaient apparus. Vous voyez, un format corporel, une silhouette qui ressemble beaucoup à celle des hommes d'aujourd'hui. Alors, bien, il avait un cerveau un peu plus petit, une denture un peu bizarre, mais enfin, il y avait cette idée-là que c'était quelque chose quand même d'assez différent. On est un peu revenu là-dessus parce qu'on s'est rendu compte, justement, en particulier à propos des rythmes de croissance, qu'il avait un rythme de croissance qui ressemblait plus à celui d'un chimpanzé qu'à celui d'un homme, et donc que peut-être cette rupture, elle n'est pas aussi marquée que ce que l'on croyait. Et donc, depuis cette découverte, dans le fond, les deux questions qui agitent beaucoup les paléanthropologues, c'est celui d'abord de la chronologie de toutes ces formes, et puis aussi de leur relation de parenté, et même de la question de savoir s'il faut vraiment toutes les mettre dans le genre homo. Donc, pour résumer, toutes les découvertes qui ont été faites en Afrique, et puis aussi hors d'Afrique, puisqu'on a maintenant des formes très anciennes qui ressemblent beaucoup à ces formes africaines en Géorgie, donc dans l'Eurasie, eh bien, on a une période de temps qui commence il y a environ 2 millions d'années et qui se termine autour de 1 450 000, dans laquelle on a la coexistence de ces trois espèces, dans le fond, dans une région assez petite, hein, puisqu'on parle du Kenya, de la Tanzanie, de l'Éthiopie, enfin de régions, une partie assez restreinte de l'Afrique, et singulièrement de l'Afrique de l'Est. Alors, dans le fond, cette coexistence déjà a sérieusement entamé, si je peux dire, l'idée qu'on avait à faire une évolution linéaire d'une forme comme Homo habilis vers une forme comme Homo erectus. D'abord, on avait un troisième déjà qui commençait à poser problème. Donc, on a assisté au cours des 10 dernières années à beaucoup de discussions et de révisions à propos de ces formes anciennes du genre Homo qui sont donc contemporaines de ces changements comportementaux qui nous intéressent aujourd'hui autour de la prédation. Alors quand même, je souligne dès à présent que s'il y a quelque chose qui commence autour de 2 millions d'années, ça a l'air d'être l'apparition d'Homo erectus plutôt, hein, puisque les autres formes, elles sont présentes depuis un peu plus longtemps. Comme vous voyez, on a des Homo rudolfensis qui ont peut-être 2,4 millions près du lac Malawi, et puis des Homo habilis aussi, on en a qui sont bien au-delà de 2 millions. Alors, spécifiquement sur ces homos qui ne sont pas erectus, donc habilis et rudolfensis, il y a eu beaucoup de discussions récemment qui ont ressuscité un petit peu les tourments des paléanthropologues des années 60 qui se battaient avec Leakey, Tobias et Napier à propos de savoir s'il fallait bien mettre dans le genre homo, homo habilis. Et il y a eu des découvertes, alors c'est très fragmentaire, mais on a quelques restes postcrâniens d'Homo habilis. Et donc on s'est rendu compte en regardant ces restes postcrâniens très fragmentaires que, par exemple, les proportions relatives du membre supérieur et du membre inférieur, c'était pas vraiment ce qu'on attendait pour un représentant du genre Homo, c'est quelque chose d'un peu plus primitif, avec des jambes un peu plus courtes peut-être. En tout cas, quelque chose qui ne ressemblait pas beaucoup à cet Homo erectus de Narioko Tomé dont on avait ce magnifique squelette. Et puis, deux paléontologues, Bernard Wood et Marc Collard, en 99, ont publié un article qui était assez provocateur, puisque eux ont carrément proposé de sortir du genre Homo définitivement, si je peux dire, Homo habilis et Homo rudolfensis. Et pour ceux qui suivent ces cours depuis quelques années maintenant, vous avez vu Bernard Wood ici une fois venir vous présenter ses idées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a fait une comparaison entre la phylogénie des hominines et celle des modèles de voitures. Hein. Il vous a expliqué qu'il y avait des marques différentes de voitures, mais que dans le fond, une Toyota des années 60, ça ressemblait quand même beaucoup à une voiture d'une autre marque des années 60, et que par contre, une Toyota des années 2000, ça ressemblait beaucoup à une voiture allemande ou américaine des années 2000, sans parler des différents modèles qui étaient apparus, les SUV ou voitures de sport. Et en fait, derrière ce débat s'exprime un vieux débat en paléanthropologie qui est celui de, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant dans la classification? Comment est-ce qu'on doit grouper les espèces qui ont vécu dans le passé ou même celles qui vivent aujourd'hui? Est-ce qu'on doit privilégier ce qu'on appelle la monophylie, c'est-à-dire le fait que des espèces partagent un ancêtre commun pour les grouper ensemble, avec le problème que si on suit cette voie-là, c'est intellectuellement assez satisfaisant parce que on a des groupes qui ont une espèce d'existence naturelle qu'on peut fonder sur le partage d'un ancêtre commun quelque part dans le temps, mais avec le fait que le produit de l'évolution de différentes branches venant de cet ancêtre commun peut donner des choses qui sont assez différentes. Ou alors, est-ce qu'il faut au contraire privilégier le fait que l'on observe entre diverses espèces qui peuvent avoir des origines un petit peu séparées eh bien, le même type d'adaptation, l'occupation d'une même niche écologique. Et dans le fond, l'argument de Collard et Wood, c'était deux choses. Hein. C'était d'abord sur le plan de la phylogénie, c'était de dire que si on fait une analyse cladistique de tous les hominines plio-pléistocènes qu'on connaît en Afrique, bah dans le fond, il n'y avait pas vraiment de bonne raison de grouper Homo habilis et Homo rudolfensis avec les autres représentants du genre Homo. Alors là, on parle uniquement de caractères et d'analyse de la polarité des caractères. Et donc, voilà, eux, leur conclusion, c'était que la polarité des caractères et le partage de caractères dérivés communs, dans le fond, ça plaçait ces Homo habilis et ces Homo rudolfensis un petit peu dans les limbes, hein, à propos d'autres formes d'australopithèques, de paranthropes, mais pas vraiment groupées. Vous voyez, il y a un joli petit bouquet, là, avec Homo erectus, Homo sapiens, l'homme de Néandertal et d'autres formes, donc un peu à part. Et puis surtout, le fait que, de leur point de vue, ces formes Homo habilis et rudolfensis, surtout habilis, semblaient plus appartenir à une stratégie adaptative proche de celle des australopithèques, par exemple, que celle de ce qu'on connaît du genre Homo. Et quand ils disent stratégie adaptative, justement, ça incorpore les stratégies alimentaires, d'adaptation à des aliments particuliers et cette histoire de prédation. Alors, il y a eu depuis... Bernard a de la suite dans les idées. Donc, il a certains de son... Un de ses étudiants a travaillé, par exemple, sur les isotopes du carbone dans toutes ces formes. Vous vous souvenez, on a parlé la dernière fois, les isotopes du carbone, ça nous dit quelque chose sur l'environnement, sinon l'alimentation de ces formes anciennes. Et bon, tous ces résultats arrivent toujours un petit peu à la même conclusion, c'est que c'est vraiment autour de 2 millions d'années qu'il se passe quelque chose et qu'avant, on est plutôt dans un monde qui évoque celui des australopithèques. Et donc voilà, tout ça pour dire que, dans le fond, Wood et Collard continuent à penser que c'est probablement plutôt avec Homo erectus qu'on a affaire à des véritables représentants du genre Homo. Il y a eu, il y a pas très longtemps, 2-3 ans, il y a un article qui a été publié par des collègues de mon département à Leipzig, Fred Spur et Philippe Goons, sur un réexamen de l'holotype d'Homo habilis, ce fossile d'Oldouvaille. Et dans le fond, eux-mêmes ont confirmé un petit peu cette idée que Homo habilis, il fallait le mettre de côté. C'est-à-dire que quand on regarde tous les restes que l'on attribue au genre Homo, alors attribuons-les au genre Homo. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les angoisses de Wood et Collard. On va juste admettre pendant un instant que ce sont vraiment des représentants du genre Homo. Et bien, quand on regarde notamment les caractères dentaires, la forme de l'arcade dentaire, la forme de la mandibule, etc., et dans le fond, cet Homo habilis, il ne nous offre pas un très bon candidat à l'origine des hommes actuels et d'Homo erectus en particulier. Et pourquoi ? Parce que dans le fond, il a gardé des caractères plutôt primitifs qui évoquent ce qu'on trouve chez les australopithèques. Et il a gardé ces caractères primitifs longtemps après qu'il y ait d'autres représentants du genre Homo qui, eux, ont des caractères qui les rapprochent d'Homo erectus et d'Homo sapiens. Donc, dans cet article, ces auteurs proposent plutôt qu'Homo habilis, c'est une branche ancienne du genre Homo qui a survécu très longtemps, jusque vers 1,4 million, alors que la vraie histoire, ça se passe plutôt de ce côté-là, avec des fossiles qui sont assez fragmentaires, comme ce maxillaire qui a été trouvé à Hadar, en Éthiopie, qui a 2,3 millions, et puis les Homo erectus, qui représentent donc vraiment la lignée qui mène à l'homme actuel. Et rudolfensis aussi serait une branche un petit peu à part. Alors ça peut être un peu décevant, parce que je sais que tout le monde aime bien avoir Homo habilis avant Homo erectus dans la lignée. Je suis désolé, mais en ce moment, la tendance, c'est plutôt à le sortir, ce pauvre Homo habilis. Alors donc, cet Homo erectus qui semble être le bon, si je peux dire, le vrai, celui qui est probablement à l'origine des sites comme Kanjera, par exemple, ou ce site de Kobifora avec ses restes de vertébrés aquatiques, qu'est-ce qu'on en connaît dans le registre fossile quand on remonte vraiment au tout début. Bah, vous voyez que ce n'est pas très spectaculaire. C'est-à-dire qu'on connaît deux fossiles en Afrique de l'Est que l'on attribue à une forme très ancienne d'Homo erectus. Alors, il s'agit d'abord d'un... Alors, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, ça, mais c'est un bout d'os occipital. C'est le milieu de l'os occipital, là, l'arrière du crâne. Et il se trouve que Homo erectus a des caractères assez particuliers de l'arrière-crâne, avec une forme assez anguleuse de l'écaille de l'occipital, et puis surtout le développement d'un bourrelet osseux épais qu'on appelle le torus occipital, qu'on ne connaît pas chez les Homo habilis ou chez les Australopithèques qui ont des morphologies bien différentes. Et ça, ce petit bout d'os, là, vous voyez, c'est pas très grand, hein, ça fait quelques centimètres, eh bien, c'est le premier bout d'occipital qu'on connaisse où il y a cette morphologie clairement exprimée. Et donc, bon, c'est le seul caractère quasiment qu'on voit sur cet os, et donc on l'a attribué à Homo erectus. Et puis alors, il y a un autre fossile qui, vous voyez, à 1 950, on n'est pas très loin de 2 millions. Là, il s'agit de quelque chose de plus complet. Il s'agit d'un fragment important de bassin qui est assez grand en taille et surtout qui présente une morphologie qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve chez des représentants plus tardifs du genre Homo. En particulier, vous voyez que sur l'aile iliaque, là, ici, il y a un renforcement osseux, hein, on parle de pilier iliaque, donc c'est un épaississement de l'os au-dessus de la cavité acétabulaire. Vous verrez que c'est quelque chose qui est important parce que ça renforce mécaniquement le bassin. Et donc, c'est quelque chose aussi qui n'est pas développé de cette façon-là chez les Australopithèques ou d'autres formes d'hominines plus anciens, plus primitifs. Et donc voilà, on a ces deux fossiles qu'on attribue à Homo erectus, et donc on est tenté de mettre un point de départ d'Homo erectus à 2 millions d'années, donc sur le point de départ de nos changements comportementaux. Et donc on va maintenant travailler cette idée, cette hypothèse que c'est avec cet Homo erectus qu'on a ce passage à une prédation beaucoup plus systématique.
Le Collège de France et France Culture vous présente le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin. Aujourd'hui, l'adaptation biologique à la prédation.
Inutile de vous dire que, comme ces fossiles ont été trouvés, celui-là a été trouvé en surface, celui-là aussi d'ailleurs. Alors évidemment, il y a, dans ce genre de situation, il y a toujours des débats pour savoir est-ce qu'on l'a bien attribué au bon niveau, est-ce que c'est le bon âge, etc. Donc c'est enfin, le business like usual en paléanthropologie, mais enfin, il faut bien faire avec ce que l'on a. Cet Homo erectus qui démarre à 2 millions d'années, donc en Afrique, eh bien, si on lui attribue ces changements de comportement en termes alimentaires, en termes de prédation, eh bien, il faut bien comprendre que ces changements s'associent à d'autres changements qui sont aussi importants et qui sont peut-être d'ailleurs tous liés entre eux. Il y a un premier changement qui est un changement dans la production d'industries lithiques. Alors, vous vous souvenez que les plus anciens outils de pierre qui viennent de l'ouest Turkana à 3,3 millions à Lomekwi, c'est des espèces de gros blocs cassés avec des éclats qui sont produits en frappant soit ces blocs avec des gros percuteurs, soit en les frappant sur des enclumes, soit en les frappant avec un gros percuteur posé sur un enclume, enfin les différentes techniques pour produire des gros éclats. Et puis ils succèdent à ces industries beaucoup plus tard, à partir de 2,5 millions par là, ce que l'on appelle l'Oldowayen. Et cet Oldowayen, qui dure très longtemps, on l'a... Enfin, un auteur des années 60, Clark, l'a attribué à ce qu'il a appelé le mode 1. Et Clark a fait une classification de toutes les industries paléolithiques en mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5. Je ne vais pas vous détailler ça maintenant. On en a déjà parlé il y a assez longtemps. Mais disons que Le mode 1, pour dire les choses simplement, c'est l'Oldowayen, avec le travail sur des galets pour produire des éclats. Alors ces galets peuvent eux-mêmes être utilisés tels que, puis il y en a beaucoup qui sont probablement plutôt des nucléus pour produire des éclats. Et puis le mode 2, eh bien, c'est le développement des bifaces, qui sont des objets sur blocs, taillés sur les deux faces. Alors celui-là, c'est un très joli biface acheuléen du nord de la France, qui est assez tardif. Mais le passage du mode 1 au mode 2, c'est quelque chose qui se produit en Afrique, dans le fond, assez peu de temps après l'apparition de ces premiers Homo erectus, hein, et de ces changements comportementaux. Les plus anciens acheuléens qu'on ait en Afrique, ils ont 1,8 million, quelque chose comme ça. Il semble que pas très longtemps après l'apparition des Homo erectus, on a ces changements techniques dans la production des outils de pierre. Un autre événement très important à cette époque-là, eh bien, c'est la sortie d'Afrique, la première qu'on puisse documenter. Alors, beaucoup de discussions aussi sur l'âge de cette première sortie d'Afrique. La chose la plus sûre que l'on ait, c'est un gisement qui est en Géorgie, qui s'appelle Manissi, où on a des industries lithiques, des outils de pierre qui sont assez bien datés. Ils sont couverts par des dépôts volcaniques qu'on peut dater avec beaucoup de précision. Donc on est un peu au-delà d'un million huit. Et puis, soit en passant, ce sont des industries lithiques du mode 1. C'est-à-dire que l'achelin n'était pas encore arrivé jusque-là. Et donc, ce qui suggère d'ailleurs que cette sortie d'Afrique, elle a été opérée par des hominines avant le développement du mode 2 en Afrique, hein, puisqu'ils ont apparemment exporté hors d'Afrique des industries plutôt de type oldowayen, et c'est beaucoup plus tard qu'on va voir se répandre cet acheléen en dehors d'Afrique. Et donc, à Manissi, on a cette date qui est à peu près sûre. Alors, il y a d'autres dates à peu près du même genre en Chine, un peu plus récente en Chine et en Indonésie, mais évidemment il y a souvent des découvertes. Il y a eu un article récemment publié dans Nature qui décrit des industries en Chine qui seraient au-delà de 2 millions d'années. Bon, je ne suis pas entièrement convaincu par cet article, mais quand même, cette sortie d'Afrique, elle tourne autour de 2 millions d'années, disons plus ou moins 100 ou 150 000 ans. Alors, à Adman, ici, on a des fossiles absolument extraordinaires. On montre toujours des photos de 5 crânes, dont un qui est extraordinairement complet, très robuste. Et ces crânes, pour la plupart, sont associés à des mandibules. C'est vraiment une collection extraordinaire. Ce qu'on montre moins souvent, ce sont les restes postcrâniens qui viennent de ce site. Et ces restes postcrâniens, dans le fond, ils nous disent un petit peu la même histoire que ceux de Narioko Tomé. C'est-à-dire qu'on a affaire à des formes qui sont quand même assez primitives. Elles sont très anciennes, hein. On est proche de 2 millions d'années. Mais en tout cas, vous voyez que les proportions, par exemple les proportions intermembrales, hein, ici on compare la longueur du fémur par rapport à la longueur de l'humérus, hein, donc le rapport jambe-bras, eh bien, place ces hommes de Dman ici vraiment dans les proportions en plein milieu de la distribution de ce qu'on observerait chez des hommes actuels. Donc ils ne sont pas très grands, mais ils ont vraiment des proportions bras-jambes très très similaires. Et à l'intérieur d'un membre, si on compare par exemple la proportion du fémur par rapport au tibia, eh bien on a aussi des proportions qui sont assez similaires à ce qu'on trouve chez des hommes actuels. Alors maintenant la question, c'est de savoir à quoi ces changements anatomiques correspondent. Et j'ai beaucoup insisté la dernière fois sur le fait que dans les comportements de prédation, certainement, la course d'endurance est quelque chose qui a joué un rôle très très important dans la capacité des hominines, de ces Homo erectus donc, à capturer des ongulés, des mammifères. Pourquoi ? Eh bien parce que la capacité d'endurance des hommes est assez extraordinaire comparée à celle des autres mammifères. Et en particulier, nous avons une grande capacité d'endurance dans un environnement chaud. Et l'idée qui a été proposée par certains, c'est que la différence de prédation exercée par les hommes par rapport à celle que l'on observe chez les félins ou chez les hyènes ou chez les canidés, c'est que, dans le fond, les hommes chassent de jour, et ils chassent de jour aux heures les plus chaudes de la journée, justement parce qu'ils peuvent tirer avantage de cette capacité qu'ils ont grâce à la thermorégulation de leur corps et grâce à un certain nombre d'adaptations qu'on va détailler. Eh bien, ils peuvent, dans le fond, pousser à l'hyperthermie et à l'épuisement des quadrupèdes qui, eux, ne bénéficient pas de ces caractères, alors que les autres carnivores chassent plutôt la nuit. Beaucoup de carnivores préfèrent plutôt attendre des animaux près des points d'eau et les attraper quand il fait nuit. Alors, dans l'élaboration de ce modèle, il y a un auteur qui a joué un très grand rôle, qui s'appelle Daniel Lieberman, qui est à l'université de Harvard et qui était ici au printemps dernier pour un colloque sur les problèmes d'adaptation énergétique chez l'homme. Et donc, Daniel Lieberman, qui, il faut quand même le préciser, lui-même est un coureur de marathon, donc évidemment, ça l'intéresse, s'est beaucoup investi dans cette étude. Dans ses études, alors sur les fossiles, mais aussi sur les populations actuelles. Il va régulièrement en Afrique de l'Est mener des expériences avec des jeunes Africains et des jeunes Africaines qui courent pieds nus. Il étudie vraiment très en détail leur performance. Et donc en 2004, il a publié avec un de ses élèves, Bramble, ils ont publié tous les deux un article qui a vraiment été une étude en profondeur de toutes ces caractéristiques qui permettent la course chez l'homme et en particulier la course d'endurance. Et donc voilà une liste alors que vous ne pouvez certainement pas lire de votre place, mais ne vous inquiétez pas, on va voyager à l'intérieur de la liste plus en détail. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a de nombreux caractères qui sont liés à la capacité de courir, donc ce R que vous voyez partout. Certains sont aussi impliqués dans la marche, mais vous voyez, tous ces caractères ont au moins un R. Et quand on regarde où ces caractères se présentent dans le registre fossile, quand on peut les vérifier sur des fossiles, on voit qu'il y en a quelques-uns qu'on voit apparaître chez Homo habilis, y compris quelques caractères qui ont l'air d'être spécifiquement des caractères liés à la course. Mais la grande majorité de ces caractères sont des caractères qu'on voit apparaître pour la première fois avec cet Homo erectus. Alors, soit sur le squelette de Nariokotome, soit sur ces restes que je vous ai montrés de Dmanisi, ou d'autres restes d'Homo erectus qu'on a trouvés ailleurs. Donc, il y a vraiment, disons, une très très forte présomption pour mettre Homo erectus au centre de cette évolution. Donc, si on couche sur le côté l'arbre phylogénétique que nous regardions tout à l'heure, ce qu'on a, c'est d'abord des formes anciennes d'hominines qui sont quand même très inféodées au milieu arboricole. Alors c'est en particulier Ardipithecus, probablement avant Aurorine et Sahelanthropus. Mais bon, là, pour ces fossiles-là, on n'a pas suffisamment de matériel pour vraiment reconstituer tous les détails de cette locomotion. Mais disons qu'avec Ardipithecus, on a une forme qui, même si elle est bipède, a encore un hallux, un pouce, un gros orteil qui est opposable aux autres et donc qui peut attraper une branche. Et ce sont des formes qui, manifestement, sont inféodées au milieu forestier, avec non seulement des caractères anatomiques, donc de bipède qui descend au sol, mais qui peut aussi facilement retourner dans les arbres et qui est adapté à ça, et puis aussi des données isotopiques qui montrent un environnement qui est quand même un environnement où il y a toujours des arbres qui sont pas très loin. Ensuite, on a les australopithèques, qui, eux, sont adaptés à la marche, bipèdes, qui sont beaucoup plus dégagés du milieu forestier. Et puis, bon, des formes qui sont moins bien connues, et en particulier au Moabilis et les paranthropes du point de vue du squelette postcrânien, mais qui semblent quand même appartenir à la même, même genre d'adaptation, hein, avec une vie dans un milieu plus ouvert, mais quand même toujours une possibilité d'aller dans les arbres. Je vous signale une petite curiosité, là, c'est ce fossile de Bourtélé en Éthiopie, qui est donc contemporain des Australopithèques afarensis, hein, Lucie, et qui est un fossile, il est connu par un bout de pied, hein, et ce bout de pied, c'est un pied avec un hallux qui est divergent comme ça, hein, donc c'est très très étrange, ça veut dire que longtemps après l'apparition des Australopithèques les plus anciens, eh bien, on avait encore des formes un petit peu similaires à Ardipithecus qui vivaient en Afrique de l'Est. Donc, la réalité est peut-être encore beaucoup plus compliquée que ce qu'on imagine. Et puis alors là, toutes les formes du genre Homo qui, elles, sont non pas adaptées simplement à la marche, mais adaptées aussi à la course. Et la course, c'est quelque chose d'assez différent de la marche. La marche, bah, c'est une locomotion où il y a constamment un appui au sol, hein, alors que la course, c'est un mode de locomotion qui est sauté, hein, c'est-à-dire qu'à chaque foulée, eh bien, il y a un moment donné où le corps est complètement séparé du substrat, du sol, hein, donc d'une foulée à l'autre. Et cela, ça entraîne un certain nombre de problèmes mécaniques, de problèmes anatomiques qui ont dû être résolus et dont on voit la résolution dans le genre Homo, singulièrement chez Homo erectus et les formes les plus récentes. Alors ces problèmes, c'est d'abord des problèmes liés au choc mécanique, parce que quand vous courez, eh bien, à chaque fois que vous retombez sur le sol, si je peux dire, eh bien, il y a un choc qui se transmet aux membres inférieurs, à la colonne vertébrale, au bassin. Donc un problème d'amortissement des chocs mécaniques, un problème de stabilisation du corps, stabilisation de la tête, hein, qui bouge, et vous allez voir que cette stabilisation elle a pu être résolue de différentes façons. Et puis aussi, alors évidemment, ces problèmes de thermorégulation dont on a déjà parlé plusieurs fois. Alors voyons cette liste dressée par Bramble et Lieberman pour voir un petit peu quels sont ces caractères qui permettent la course d'endurance et qui permettent la capture d'animaux. Alors d'abord, j'allais dire tout bêtement, tout simplement, il y a le format corporel qui est assez différent chez ces Homo erectus de ce que l'on avait chez les Australopithèques, et j'ai déjà évoqué ces proportions entre le membre supérieur et le membre inférieur, et même les proportions entre éléments distaux et proximaux de ces membres. Donc quelque chose, encore une fois, qui ressemble pas mal à ce qu'on observerait chez un homme actuel. Et ces proportions corporelles, cette forme plus élancée du corps, elles sont intéressantes pour deux raisons quand on pratique la course. La première, eh bien, quand on pratique la course, il vaut mieux avoir des grandes jambes que des petites jambes. Hein. Ça paraît assez évident. Et si vous regardez de temps en temps l'athlétisme à la télé, vous verrez que curieusement, les athlètes qui gagnent les courses, surtout le sprint, il ne s'agit pas de course d'endurance, ils ont quand même des jambes assez grandes. Hein. Et pourquoi ? Bien parce que dans cette locomotion qui est la course, eh bien la façon d'accroître la vitesse, c'est pas tellement d'accélérer la cadence des foulées, c'est plutôt d'allonger la foulée. Alors surtout quand on fait de la course d'endurance, si vous voulez courir un marathon, je vous le dis tout de suite, il faut pas essayer de faire des petites foulées très rapides, il vaut mieux faire des très très grandes foulées lentement, et c'est ce qui augmente l'efficacité de la course. Donc les grandes jambes, c'est un des premiers caractères qu'on observe dans ces adaptations. Et ensuite, ce format corporel qui est un format étroit et allongé, eh bien c'est un format qui augmente le rapport surface-volume du corps. Et vous vous souvenez que ça, c'est très important pour la thermorégulation. C'est-à-dire qu'en gros, quand on vit dans des climats froid et qu'on a besoin de conserver des calories, eh bien, on évolue vers des formes qui sont plus trapues. C'est ce qu'on observe chez tous les mammifères, hein. Donc des formes de plus en plus ramassées pour conserver la chaleur. Au contraire, les mammifères qui vivent dans les milieux chauds, et c'est vrai aussi pour les populations humaines, ont tendance à avoir des formes beaucoup plus longilignes parce que ça permet un meilleur refroidissement du corps. Alors ensuite, on a des adaptations qui sont liées à la course elle-même, et en particulier au fait que quand on court, eh bien, il y a une rotation du bassin, hein, pour permettre ces foulées de plus en plus longues. Et cette rotation du bassin, elle doit être compensée par une contre-rotation du torse, hein. Vous savez, quand on court, on balance ses membres supérieurs, en partie pour créer ce mouvement de rotation du tronc qui va contrebalancer le mouvement du bassin et des jambes. Et comme il y a une rotation, une contre-rotation du torse, eh bien, il faut une contre-contre-rotation de la tête pour que la tête ne parte pas dans tous les sens, mais continue à rester dans la même position. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans la course et qui n'a pas besoin d'être là dans la marche. Et de fait, quand on regarde ce qui se passe en termes de changement anatomique entre, disons, un australopithèque et puis ce que l'on reconstitue de l'anatomie d'un Homo erectus, eh bien, on trouve des changements qui permettent ces contre-rotations. Alors, c'est d'abord le dégagement de la tête par rapport aux épaules, donc un cou qui devient plus mobile, si vous voulez, qui permet cette contre-rotation. Des épaules qui sont plus larges et qui sont plus basses, et ça, c'est lié à cette rotation du tronc pendant la course. Une réduction des avant-bras, parce que évidemment c'est bien de balancer ses membres pour entraîner le torse, mais il faut pas non plus avoir des bras de gorille, hein, parce que là c'est assez plutôt handicapant. Un thorax qui devient plutôt étroit, hein, et donc qui facilite ce mouvement de balancier du tronc. Et puis un bassin étroit et un bassin et un thorax qui sont séparés par une taille qui est bien marqué, bien dégagé et qui est assez longue, hein. Donc un segment ici qui est plutôt étroit et plutôt allongé et qui permet à cette taille d'avoir une rotation assez facile. Donc ça, c'est pour, j'allais dire, l'anatomie du squelette en général, mais il y a d'autres aspects de détail qui permettent cette stabilisation et en particulier des adaptations qui se manifestent dans l'oreille interne. Alors, quand on regarde à l'intérieur d'une oreille, hein, il y a l'oreille externe, il y a l'oreille moyenne, qui est une série de petits osselets qui se trouvent en arrière du tympan et qui transmettent les vibrations à l'oreille interne. Et l'oreille interne, eh bien, c'est cette espèce d'escargot qui se trouve à l'intérieur du crâne, à la base du crâne, dans l'os temporal, dans une partie du crâne qui est extrêmement massive. Et cette oreille interne, c'est une cavité osseuse, hein, qu'on peut assez facilement étudier dans les fossiles. Elle se forme très précocement dans le développement individuel. À 6 mois de développement embryonnaire, la forme de cette oreille interne est déjà fixée, hein. Et il se trouve qu'elle a des variations de forme qui permettent en particulier de distinguer différentes espèces d'hominines. Par exemple, on peut très bien séparer un néandertalien d'un homme moderne sur la morphologie de cette oreille interne. Et c'est très bien qu'elle soit formée à 6 mois de développement embryonnaire, parce que même sur un nouveau-né, sur lequel on observe très très peu de caractères, ce caractère-là permet de distinguer ces groupes. Alors, pour revenir à mes Homo erectus, donc on a leur oreille interne. Alors cette cavité osseuse, en fait, elle contient un organe qui est le labyrinthe membraneux, c'est-à-dire cette oreille interne est membraneuse, la partie molle, si vous voulez, de l'organe, et qui est composée de différentes parties. Et dans ces différentes parties, il y a des canaux, hein, une espèce de tube arqué, qu'on appelle les canaux semi-circulaires, qui forment trois, disons grossièrement, trois demi-cercles qui sont orientées dans trois directions de l'espace. Et donc il y a un canal semi-circulaire antérieur, un postérieur et un latéral. Dans le labyrinthe membraneux, ces canaux sont remplis de liquide et les parois du labyrinthe membraneux sont extrêmement innervées. Et donc les variations de pression de ce liquide dans ces canaux, lorsque la tête bouge ou quand le corps bouge, eh bien, transmettent au cerveau des informations qui permettent au cerveau d'apprécier le mouvement, d'apprécier la verticalité et, dans le fond, de stabiliser le corps et la tête. Le labyrinthe, c'est ce qui vous pose problème quand vous avez le mal de mer. C'est-à-dire que vous avez des informations qui sont transmises par le labyrinthe au cerveau qui ne collent pas tout à fait avec les informations que votre système visuel transmet au cerveau et ça crée un malaise, d'accord ? Plus ou moins intense suivant les individus. Et on s'est beaucoup intéressé à ces canaux semi-circulaires. Pourquoi ? Parce que, comprenez bien qu'ils nous disent quelque chose sur la locomotion. En particulier, les formes qui sont des formes arboricoles ont des canaux semi-circulaires qui sont assez différents des formes qui sont bipèdes ou des formes qui sont... Enfin, disons, les formes qui se déplacent en trois dimensions ont des canaux semi-circulaires différents des formes qui se déplacent plutôt dans deux dimensions, si je peux dire. Les oiseaux ont des canaux semi-circulaires particuliers. Alors, en ce qui concerne nos représentants du genre Homo et les Australopithèques, ce qu'on voit, c'est un accroissement chez à partir d'Homo erectus des canaux semi-circulaires antérieurs et postérieurs. Et ça, c'est lié au fait que pendant la course, il est important que la tête soit bien stabilisée, c'est-à-dire que, au fond, quand vous courez, surtout si vous courez derrière un gibier que vous voulez attraper, il ne faut pas que vous le perdiez de vue, donc il faut que vos yeux soient capables de se maintenir dans une certaine direction. Et donc, les hommes sont assez bons à ça, c'est-à-dire quand ils courent, ils arrivent à garder la tête assez fixe grâce à ces canaux semi-circulaires. Et ce changement, on le voit donc singulièrement avec les Homo erectus.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 13 novembre 2018 le cours de Jean-Jacques Hublin, l'adaptation biologique à la prédation. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017 sous le titre « Biologie de la culture, paléo-anthropologie du genre Homo ». Plus récemment, il a contribué à une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, sous la direction de Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia et Alain Schnapp, aux éditions La Découverte, INRAP. Je rappelle également son ouvrage avec Bernard Seitre, publié sous le titre « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son questionnement de l'adaptation biologique à la prédation. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.